Impact. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale du Studio Bus, présentée par Émilie Moreau et Mathieu Dautet. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Chapnam. Une émission spéciale aujourd'hui dans laquelle on va se concentrer sur les sources. Elles sont directement liées à la fiabilité d'une information et à la qualité du travail journalistique. Savoir évaluer leur crédibilité, ça revient à déterminer la crédibilité d'un article. Nous ferons le point sur certaines enquêtes de masterat en journalisme à l'Université de Liège qui ont été abordées dans les émissions précédentes. Ces étudiants et étudiantes ont rencontré certains problèmes avec leurs sources. Nous sommes avec Nathan et Éléonore, étudiants en master 1. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous accueillons également deux journalistes professionnels. Le premier, c'est vous, Hugues Dorzé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef chez Imagine Demain Le Monde. Marc Vanesse est également avec nous. Bonsoir, monsieur Vanesse.
Bonsoir, les enfants.
Vous étiez l'année dernière encore professeur de journalisme ici à l'Université de Liège. Et avant ça, vous avez notamment travaillé pour le journal Le Soir.
Mais revenons d'abord sur l'enquête de Nathan. Avec ton groupe, vous avez enquêté sur une vente de bois de chauffage en 2021 à Stoumont. Sur 13 lots de bois, 9 ont été vendus au fils du bourgmestre. Pour votre source, la vente était truquée et il y avait un peu de piston là-dessous. Quel était votre rapport à cette source ?
En fait, le rapport avec notre source, il a évolué au fur et à mesure de l'enquête. C'est un citoyen de Stoumont qui est très engagé contre la commune. Et au début, on lui faisait confiance, peut-être même un peu trop confiance. Il nous avait transmis des documents officiels qui lui donnaient un peu de crédibilité. Et il a également déposé un dossier à l'Office central de la répression de la corruption. Et on est un peu rentré dans son jeu, c'est-à-dire que dès qu'on découvrait un nouvel élément, on avait l'impression que c'était une nouvelle avancée dans son sens, donc dans le sens d'une vente truquée au profit des proches du bourgmestre. Mais en vérifiant chaque information, parfois à l'aide de plusieurs experts, on s'est rendu compte qu'une partie des affirmations de notre source n'était pas correcte.
Et donc à ce moment-là, est-ce que votre relation avec la source a changé ?
Oui, on est devenu plus méfiant envers lui, d'autant qu'il a des ambitions politiques au sein de la commune. Il compte se présenter aux prochaines élections. Et donc en fait, oui, il a des intérêts à ce qu'une enquête salisse un peu l'image du pouvoir communal en place.
Est-ce que vos échanges avec lui ont évolué quand il s'est rendu compte que les résultats que vous aviez n'allaient pas dans son sens ?
Oui, au début, il était vraiment très gentil envers nous. Il nous disait qu'on travaillait bien. Mais quand on a commencé à aller dans un autre sens que le sien, il est lui-même devenu méfiant envers nous et un peu agressif en nous disant qu'il finirait par découvrir pourquoi on avait commencé à contredire ce qu'il disait. En fait, c'est un habitant qui se plaint énormément de la commune et pour toute une série de sujets différents. Donc oui, on a totalement perdu confiance en notre source. Et même quand on lui a exposé les résultats de notre enquête, il ne voulait pas les accepter et il persévérait. Il a même remis en cause les experts que nous avions contactés.
Comment vous sentiez par rapport à cette situation ?
On a un peu l'impression que notre source a essayé de nous manipuler dans le but qu'on publie contre la commune. Pour nous, il nous a donné des fausses informations dans le but de servir ses intérêts.
Monsieur Vanesse, comment justement réagir face à une source qui nous contacte avec des intentions douteuses ?
Il y a plusieurs, je dirais, soupapes de sécurité qu'il faut avoir, surtout quand on débute un peu dans le métier, qu'on n'a pas encore toutes les sources locales, par exemple, ou les sources du domaine exploré. Mais vous avez finalement très très bien réagi, vous avez quand même senti très vite qu'il y avait la belle histoire, donc c'est souvent un peu... On peut avoir un citoyen très vigilant qui, à un moment donné, fait le taf et vous amène vraiment sur une vraie piste. Mais il faut quand même avoir toujours une deuxième oreille qui vous dit, bon, quel est son intérêt ? Je crois qu'il est clairement visible, et peut-être qu'il a une obsession personnelle par rapport au pouvoir en place, que sais-je. Mais très vite, vous avez alors d'autres sources qui doivent normalement vous confirmer, nuancer, abonder dans le bon sens, le sien, le bon entre guillemets. Et visiblement, vous avez eu tout de suite de gros doutes. Donc le doute, c'est vraiment chevillé au corps que le journaliste, surtout quand on débute, mais même après des années de métier, on peut se faire rouler dans la farine, hein.
Et vous, monsieur Dorzé, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire manipuler par une source ? Et à ce moment-là, comment réagir ? Comment est-ce que vous avez réagi, si ça vous est arrivé ?
Mais manipuler, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, parce qu'effectivement, on est toujours... enquêter, c'est toujours... j'aime bien prendre la comparaison avec tirer une pelote de laine, vous tirez sur la pelote, vous ne savez jamais où ça va vous mener. Parfois, vous allez tricoter à beau pull, et puis parfois, ça va être le flop. Mais pour revenir sur un exemple, je me souviens, par exemple, il y a quelques années, j'avais travaillé sur une enquête autour des, vétérans congolais. Donc, ce sont ces soldats qui ont servi en fait dans l'armée belge pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, il y avait dans l'histoire collective et même dans les discours politiques, etc., toute une espèce de petite musique qui disait en fait. Ces gens ont servi, et à juste titre, sont morts au front, n'ont jamais été reconnus à leur juste valeur. Et par ailleurs, surtout, ce qui préoccupait, c'est qu'ils n'ont jamais reçu de pension en tant que militaires, comme l'ont reçu les soldats belges. Et donc j'avais été contacté par une source de la diaspora congolaise qui était très très remontée là-dessus. Et en remontant dans les archives de l'État, en voyant les discours politiques, les commissions parlementaires, toutes ces questions, c'était un peu ça qui restait. Puis un jour, c'est un peu le... Au bout de plusieurs semaines, c'est un an et demi, j'allais régulièrement, c'est mon petit rituel, aux archives de l'État, je me souviens. Je suis tombé en fait sur une série de documents où en fait on se rendait compte que l'État belge avait versé l'équivalent de 150 millions de francs belges à l'époque à Mobutu, au Congo, pour dédommager entre guillemets ces soldats qui avait servi à la patrie belge. Et en fait, Mobutu, tout son entourage, avait détourné cet argent qui n'était jamais arrivé dans les poches des vétérans congolais. Et donc, il y avait un énorme consensus entre la Belgique et le Congo qui n'avait jamais été... Donc, tout ça pour dire qu'au début, comme disait Marc, enquêter, c'est toujours partir d'une intuition, c'est jamais une certitude, et puis... On se projette, on part sur une hypothèse et puis on réajuste en fonction de ce qu'on trouve. Et c'est ça qui fait la beauté, la fascination et les difficultés de ce métier.
Éléonore, vous avez enquêté avec votre équipe sur le syndicat CGSP et vous avez aussi rencontré quelques difficultés avec vos sources.
Oui, tout à fait. On a directement été confronté à un mur pour la seconde partie de notre enquête, même pour obtenir ou vérifier des informations très simples. On avait déjà publié deux articles sur la CGSP, donc un climat de méfiance s'est installé et on a vraiment ressenti un froid dans nos relations avec les syndicalistes. La plupart des personnes qu'on a contactées ont refusé de nous parler. Certains ont eu des mots très secs. On nous a raccrochés au nez. Ils envoyaient tous la balle entre eux en disant ne pas être compétents pour nous répondre. Donc c'était vraiment très compliqué d'avancer. Et quand on a contacté le président fédéral, par exemple, il nous a clairement dit qu'il ne nous dirait rien du tout.
Est-ce que vous avez été confronté à des sources plus menaçantes ?
Je ne sais pas si menaçant est le terme exact, mais pour vous donner un exemple, on a eu une source qui avait accepté de nous parler avant la publication d'un premier article, mais il n'a pas trop aimé ce qu'on avait dit sur lui. Et donc quand on l'a recontacté récemment pour le prévenir qu'il allait apparaître dans un nouvel article et évidemment lui donner l'occasion de s'exprimer, il a totalement refusé tout dialogue et a ajouté qu'on verrait les conséquences de notre article dans les prochains jours. Alors chacun voit ça comme il veut, mais personnellement je le perçois comme une menace indirecte, puisqu'il dit qu'on va entendre parler de lui, mais sans vraiment préciser de quelle manière. Et puis, il reste à voir s'il va mettre ses propos à exécution ou si c'est simplement un moyen de nous mettre la pression. Je ne sais pas ce qui est le plus fréquent dans ce genre de situation.
Monsieur Dorzé, est-ce que vous êtes déjà retrouvé face à une source hostile, qui serait devenue hostile maintenant, une fois que vous avez trouvé des conclusions, des éléments d'enquête qui ne corroboraient pas ce qu'elle vous avait avancé?
Oui, je dirais que c'est presque inhérent à chaque grande investigation. Une des dernières qui a été menée par Imagine, qu'on a fait avec mon collègue Christophe Schoen sur le développement de l'aéroport de Liège-Airport, par exemple, et l'avenue de la multinationale Alibaba, ici à Liège. Ben, on a eu ces 6 semaines de travail, près d'une centaine de sources différentes. Et effectivement, dès qu'on a pu, par exemple, calculer le nombre d'emplois exacts qui allait être généré sur la plateforme de l'aéroport, comment Alibaba et toutes les forces vives belges avaient été attirées, la multinationale, à quel prix pour venir ici, ben, on a des sources effectivement qui deviennent moins loquaces, je me souviens notamment d'un entretien avec toute la direction de Liège-Airport qui était assez tendue. On était pendant 2 heures en face à face avec une série de questions très, très, parfois avec langue de bois, parfois avec une forme d'évitement des questions. Donc oui, ça fait partie du jeu et je crois qu'il faut pouvoir l'accepter aussi, quoi.
Et vous, monsieur Vanesse, est-ce que vous avez déjà été manipulé par une source qui n'est pas tombée sur les mêmes conclusions que vous ?
Non, mais je peux peut-être vous raconter, puisqu'on est dans la CGSP avec Éléonore et son équipe, il y a quelques années, il y avait la CGSP nationale, donc c'est la Confédération Générale des Services Publics, qui se trouve à Bruxelles, Et à 400 mètres de là, donc ça c'est la maison fêtière, et à 400 mètres de là se trouve la CGSP Bruxelles. Et puis il y a la zone Liège, Charleroi, etc. Et là, c'était la CGSP nationale qui voulait attaquer en justice la CGSP bruxelloise, sans trop dire ce dont il s'agissait, mais en disant qu'ils avaient découvert des malversations. Ça va faire tout mon été, cette affaire-là. Je ne sais pas si tu te souviens, juste au service politique. Et finalement, là, mais c'était une pépinière de mensonges, parce qu'ils se vomissaient entre eux. Ils se traiteraient tous, leur injure entre eux, c'était « Ah oui, mais celui-là, il ne faut pas lui parler, c'est un stalinien. » Et le même disait de l'autre « C'est un stalinien. » Donc j'entrais dans une espèce de théâtre invraisemblable. Pour finalement, à l'arrivée, parce que moi, plus on ferme les portes, et Léonore, je comprends votre dépit, mais à un moment donné, plus ça ferme, plus ça devient un jeu, plus ça devient drôle, plus ça devient... Prenez ça comme un jeu vidéo un peu intelligent, il faut s'en sortir, c'est une espèce d'escape game vers la vérité. Alors je dis pas qu'on y arrive chaque fois, mais il y a quelque chose de ludique chez moi. Plus ils ferment les portes, plus ils mentent comme des cochons, plus c'est drôle. Et finalement, on y arrive. Mais je travaillais dans un journal qui laissait aussi le temps de chercher, donc c'était pas inutile. Et puis je vais découvrir alors qu'il y avait effectivement les vrais griefs, c'est qu'ils considéraient comme affiliés des gens qui étaient morts pour obtenir des subsides. Donc il y avait 500, 600, 800 syndiqués qui étaient décédés, mais on faisait comme s'ils étaient encore là pour recevoir quand même des allocations dans des comptes internes. Je découvre que la plupart des cadres de la CGSP, qui se trouvent donc Place Roupe à Bruxelles, au minimum, ils roulaient dans des Mercedes, des Saab de fonction, des Audi Q5, etc. Je vais discuter avec l'un d'eux, pour ne pas le citer, Edouard Momens, toujours citer le nom des crapules, et lui roulait dans une Mercedes de fonction du syndicat, mais le petit coupé avec un V8, enfin le top gamme, on poussait sur un bouton, les portes s'ouvraient en papillon, et en plus c'était un membre du Parti communiste, et c'est lui-même qui va devenir une de mes sources après, parce qu'il se dit, bon là maintenant je suis pris la main dans le sac, je vais balancer sur tous les autres, et alors tout sert un petit peu, et puis on vérifie. Donc il faut un peu s'acharner, mais c'est très 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 drôle.
Suite à ces deux témoignages, Monsieur Dorsey, Monsieur Van Est, pour conclure cette émission, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour des jeunes journalistes pour construire une bonne relation pendant et après une enquête avec les sources?
Je dirais qu'il y a d'abord la question de tisser une confiance, de s'assurer que la personne qu'on a en face de soi n'est pas simplement dans le déclaratif, mais peut aussi vous donner des pièces probantes, vous conforter, confronter de manière rigoureuse, qu'on a en face de soi quelqu'un qui est crédible. Alors la crédibilité de quelqu'un, c'est difficile de la jauger d'avance, mais je pense aussi de ne pas être dans une attitude en permanence de voracité ou de manipulation soi-même, parce qu'il faut pouvoir être... je crois dans ce métier, faire preuve d'humilité, d'être à l'écoute, de sentir quel est l'intérêt de la personne, de l'accepter, que cette personne peut avoir des avis divergents, mais assez vite les identifier, voir où cette source, pourquoi est-ce qu'elle, et qu'est-ce qu'elle exige en contrepartie, qu'est-ce qu'elle attend de vous. Donc je crois que c'est tout un travail. Alors parfois, comme dit Marc, il y a des moments où il y a des sources dont on a besoin et qui sont très hostiles et il faut composer avec. D'autres, parfois, qui vont être très, très réticentes dans un premier temps, mais en installant ce climat, en prenant un café, en discutant de tout et de rien, et puis de donner des gages. Donc c'est toujours la question aussi de notre crédibilité, de notre expertise, qu'est-ce qu'on peut donner en fait à la source comme garantie qu'elle sera à la fois protégée avec les choses élémentaires évidemment de la déontologie, mais en même temps qu'on sera à la hauteur de ce que ils vont pouvoir nous donner. Sans, et ça renvoie à ce que Nathan disait tout à l'heure, sans non plus promettre monts et merveilles à nos sources, parce que c'est toujours ça le risque, c'est qu'il y ait des attentes trop importantes et qui se dégonflent après, parce que ça peut parfois, une source, ça peut être 3 lignes dans un dossier de 15 pages, parfois la source n'apparaîtra pas alors qu'elle aurait voulu qu'il y ait une longue interview d'elle, etc. Donc c'est toujours de garder le contrôle sur l'équidistance entre nos différentes sources. Quoi.
Et vous, Monsieur Van Est, des conseils à donner pour garder de bonnes relations avec l'enquête?
Oui, bien sûr, mais je pense que Hugues a très bien résumé l'affaire. Je vais peut-être ajouter ceci. Quand on est débutant, forcément, on n'a pas encore un carnet d'adresses, donc on n'a pas encore testé suffisamment de sources qu'on appelle internes ou externes, avec lesquels on a créé un lien suffisamment de crédibilité et de fiabilité. À la fois, votre source, elle sent que vous n'allez pas la révéler, donc vous lui donnez confiance, elle va vous raconter davantage. Et en même temps, vous voyez que chaque fois qu'elle vous donne des infos, elle vous met sur une bonne piste, voire vous apporte des documents probants. Une fois que vous avez ça, ça s'appelle un carnet d'adresses. Donc ça on ne l'achète pas chez Deleuze, ça se forme au jour le jour. Maintenant, si vous avez un doute sur une source, moi je fais souvent ça, un peu comme l'histoire de ce gaillard-là qui avait découvert apparemment le poteau sur les bois de Stoumont achetés par la famille du bourgmestre. Ça paraît la belle histoire, évidemment. Mais on peut se faire enfumer très facilement. Donc, peut-être un conseil très simple. Demandez à votre source, d'abord, qui est-elle ? Donc, l'identifier. Pourquoi ? Pourquoi elle fait ça ? Comment elle est au courant ? Etc. Et là, vous sentez déjà... La moitié des gens vont déjà se dégonfler parce que parfois, ils veulent simplement foutre le souk. Mais s'il y a personne s'accroche un peu, pour ne pas tomber dans le piège, c'est lui donner une ou deux infos que vous allez alors vérifier à d'autres sources. Et puis, si vous avez encore un doute, redemandez d'autres infos. Et progressivement, alors, vous allez voir, bon, ça a l'air quand même d'être fiable. Sinon, vous pouvez arrêter les rotatifs très vite et vous dire, bon, j'arrête de perdre mon temps. Il y a un exemple qui est dans l'histoire du journalisme d'investigation bien connu, mais vous n'étiez pas né, ça a une vingtaine d'années. Il y a un journaliste du Morgan, très très grand investigateur dans le milieu de la finance et de la banque, Luc, qui était même rédacteur en chef adjoint du Morgan, donc le Morgan s'appelle le Libération de Flandre, journal de gauche, et il obtient d'une source, il se présente comme un ancien cadre de la banque Credit Bank, une grosse banque en Flandre, et qui tient de la filiale qui se trouve au Luxembourg. Donc dès que s'il y a le Luxembourg, là, alerte rouge, bon, ça sent l'évasion fiscale, évidemment, et il avait le fichier de plusieurs centaines de clients de la banque qui, soi-disant, étaient passés par la banque et étaient là-bas en train de planquer du pognon à l'abri, et pas des petits montants. Et puis, il va essayer de discuter avec ce gars-là. Ce gars-là est effectivement un ancien cadre de la banque, il vérifie, etc. Et puis, il se trouve là, avec, presque encombré avec cette histoire-là. Je sors pas. Et surtout, il y avait des noms très étranges, outre quelques familles d'industriels, etc., bien connues de la grande bourgeoisie flamande, ou du business, du show business, etc., ou du sport. Il y avait des noms de trois anciens premiers ministres flamands, Tindemans, il y avait Martens et il y avait Eskens. Et puis du côté francophone, il y avait Didier Reynders, qui est donc actuellement notre commissaire européen belge au sein de la Commission européenne. Et à l'époque, il n'était jamais que ministre des Finances. Donc celui qui est censé faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Et il était mis dans la liste comme étant quelqu'un qui avait planqué du pognon, avec soi-disant les comptes à côté, etc. Luc est emmerdé ce bazar-là, il en parle un peu à sa direction. Sa direction pousse à le sortir, lui dit mais quand même, il faudrait vérifier, etc. Et il y a eu un concours de circonstances qui fait que Luc, non, on ne lui a pas laissé le temps d'aller plus loin, ou est-ce qu'il n'a pas pu joindre les gens, je ne me souviens plus exactement. Il sort l'affaire, et là, ça a été la cata complète. À la fois, il y avait des infos vraies, donc il y avait, je dirais, 95-98% du listing qui était tout à fait juste. Ces familles-là avaient bien profité des largesses d'une banque filoute, mais bon, ça, c'est presque un pléonasme. Et on avait ajouté des noms pour rendre plus sexy, évidemment, la dénonciation. Reynders et les autres sont montés au créneau, ont fait très vite la démonstration qu'ils n'avaient absolument pas un copec au Luxembourg. Voilà. Et Luc, ça s'est terminé comment ? Mais il a dû présenter sa démission, malheureusement pour lui. Et c'est un magnifique journaliste. Mais je crois qu'il était poussé dans le dos, surtout à l'époque, par sa rédaction. Allez, on a un coup, on a un scoop, on y va, quoi. Donc, méfiance.
Merci beaucoup, Monsieur Vanès, pour ces mots de la fin. Et merci à vous et Monsieur Dorsey d'être venus sur le plateau. Merci également à Nathan et Eleonore de nous avoir partagé votre histoire. Et merci à ma co-présentatrice, Émilie.
Merci à toi aussi Mathieu et merci à tous pour votre investissement pendant ce Studio Bus.
Merci d'avoir suivi cette émission. Restez avec nous, le Studio Bus n'est pas encore terminé. Rendez-vous sur Facebook à 19h pour votre journal télévisé. Bonne soirée. Impact.